Bonjour, vous êtes bien dans notre émission Underscore. De belles histoires, des machines, des aventures humaines, le nom du code tient en trois lettres.
Mais que voulait-elle dire?
À ton avis,
trois lettres.
Trois lettres?
MMU?
Non, même pas. MSX?
MSX?
Mais oui, parce que c'est le sujet du jour. Maître Bell, en belle inspiration, nous a proposé un sujet sur une machine des années 80.
En fait, même deux sujets parce qu'on a dû le couper en deux tellement il est prolixe.
C'est plus qu'une machine. MSX, c'est un standard.
C'est une plateforme.
Mais oui. Et nous allons vous en parler, mais tout
d'abord,
de suite, passons à l'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'actu, hein?
Le Premier ministre veut un bilan de l'open data et la fin des redevances à l'horizon 2022. C'est visiblement très dur de faire de l'open data dans l'administration. Comme le rappelle Next Impact, c'est pas comme si on payait déjà pas ces données pour nos impôts, hein.
Bah oui, en fait, on les paye déjà. Donc en fait, ils veulent nous les revendre alors qu'on les paye déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le serveur web libre Nginx, bientôt racheté par un concurrent pour 670 millions de dollars. Bon, il devrait rester open source, bon, sinon c'est pas grave, on le forquera, hein, c'est pas gênant.
La Poste constituerait une base de données géante sur tous les Français. Bastamag reprend un article du journal grenoblois Le Postillon qui dénonce un projet qui va bien plus loin que les adresses postales, avec des données enrichies de critères géographiques, sociodémographiques et comportementaux, un vrai fichage en règle, quoique La Poste entend bien revendre à plein d'entreprises, bien sûr.
C'est assez énorme, ça, hein?
Ouais.
Alors après, la Poste a fait aussi la banque postale et on sait que ce genre de fichage, c'est monnaie courante dans les banques.
Ouais.
Et ouais, dans les banques, c'est monnaie courante. Ouais.
Les solutions de Mounir Majoubi pour contrôler l'accès des mineurs aux sites porno. Il propose d'utiliser des tiers de confiance. Le tiers de confiance est une option crédible parce que c'est une option qui est testée ailleurs. Mais l'État ne va pas demander une pièce d'identité pour aller sur les sites porno, hein. Heureusement, et pourquoi pas la feuille d'impôt des parents aussi? Allez, fume tonton Mounir, hein.
Il fume. Je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne.
Eh bien, nous faisons une petite pause.
À tout de suite.
À tout de suite. C'était Mechatronic, More Classics. Bien évidemment, la musique fait 8 minutes, donc on s'est un petit peu arrêté avant en cours de route, mais bon, voilà, c'est un petit peu une petite pause bien sympathique. Mais tout de suite, nous allons passer pour le sujet et un petit générique pour introduire.
Le sujet.
Alors, le sujet du jour, c'est « Il était une fois, le MSX par Melbel », notre ami belge qu'on salue bien bas parce que voilà, il nous fait des formidables chroniques et on va vous en faire profiter aujourd'hui. MSX, trois initiales qui ont fait peur au cœur de l'industrie informatique britannique naissante. Les Japonais arrivaient et les pionniers britanniques de la technologie étaient inquiets de ce que cela pouvait signifier. Les entreprises d'Extrême-Orient telles que Sony, JVC, Sanyo et Pioneer avaient payé les constructeurs Hi-Fi de chaînes de télévision grand public britanniques et d'autres avaient tué les industries britanniques de la moto, de la caméra et de l'horlogerie. Et maintenant, ils pourraient faire la même chose avec nos entreprises informatiques.
Ah !
Complètement. Mais les gens de Sinclair, Acorn, Oric, Dragon Computer et compagnie n'ont pas à s'inquiéter. MSX et les entreprises soutenant la norme n'auraient jamais l'impact escompté par les autochtones. Mais leur crainte initiale n'était pas déraisonnable. Les cartes semblaient empilées en faveur des envahisseurs. Les entreprises japonaises proposaient une plateforme matérielle et logicielle unique, garantissant la compatibilité totale des applications et des jeux sur des machines de différents fabricants, presque toutes réputées pour la qualité de leurs produits et leur prix agressif. Et Microsoft, le développeur de l'élément le plus proche d'un dialecte standard de base à l'époque, était également derrière. Microsoft annonça officiellement la plateforme MSX le 16 juin 1983. 11 jours plus tard, Canon, Fujitsu, Hitachi, JVC, Mitsubishi, National, Sanyo, Sony, Toshiba, Yamaha et d'autres sociétés japonaises, oh, il n'a pas tout cité quand même, ainsi que les sociétés coréennes Goldstar, maintenant LG et US Hong, la société Kong, Spectra Video a annoncé qu'elle soutiendrait le nouveau standard envisagé. La plupart expédieraient leurs équipements au Japon bien avant la fin de l'année. Toutefois, MSX est à l'origine de 2 ans auparavant, soit en 1981 et en août, du PC IBM alias le 5150. Les machines domestiques existantes contenaient de processeurs 8 bits. Mais le processeur Intel 8088 d'IBM 5150 était un processeur 16 bits. Même si le 5150 avait été conclu pour les utilisateurs professionnels, il a été perçu par de nombreux observateurs comme le début de la fin de l'ère de la micro-informatique 8 bits créée au milieu des années 70. Kazuhiko Kei Nishi, cofondateur de ASCII Corporation, un éditeur japonais des magasins de l'informatique qui fait irruption dans le secteur de la distribution de logiciels à la fin des années 70, l'a convaincu. Au début des années 80, il a été en tant que Microsoft Japon de facto. Nishi avait lui-même été devenu le vice-président de Microsoft pour les opérations en Extrême-Orient. Il s'est rendu compte que tous les ordinateurs allaient bientôt passer à l'informatique 16 bits, mais il leur restait juste le temps de définir une dernière machine ultime en 8 bits. Pas seulement une machine isolée, mais aussi une machine qui servirait de base à une plateforme. J'ai réalisé que notre IBM basique serait la norme pour les entreprises ainsi que de nombreux fabricants fabriquaient aussi des micros compatibles avec IBM, a-t-il déclaré quelques années après le lancement de MSX. Je pensais que nous pourrions pousser plus loin ce concept sur le marché intérieur. L'intérêt suscité par le PC IBM a rapidement conduit à des machines compatibles proposées par des fabricants rivaux qui ont pris la version du système d'exploitation sous la marque propre de Microsoft. Concédée sous la licence à IBM, ils l'ont combinée à la technologie de processeur Intel et à un BIOS compatible pour produire clones IBM qui exécuterait des applications et des utilitaires écrits pour le 5150. Si une plateforme commune pour l'informatique professionnelle pouvait être établie autour d'un produit Microsoft et d'une spécification matérielle principale, pourquoi ? Alors, raisonna Nishi, ne pourrait-il pas en être de même pour le marché de l'informatique domestique? Et ainsi est née la notion plus tard intégrée dans MSX, abréviation de « machine à échange de logiciels », a toujours insisté Nishi. Mais l'idée a été plus profonde. pour développer une plateforme, les entreprises d'électronique grand public pourraient intégrer leurs offres plus traditionnelles. Des entreprises comme le Panasonic et Sony, a déclaré Nishi, en tant que grand producteur de téléviseurs, pourraient décider de doter chaque téléviseur d'une capacité informatique. Tiens, ça me parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Dans le cas de Yamaha, il s'agit d'un très grand fabricant de claviers. Il intègre donc l'ordinateur dans un clavier, a déclaré Nishi. Dans ce cas, MSX pourrait être cet ordinateur. Cela pourrait être, a-t-il pensé, la base de ce que nous appellerions aujourd'hui un dispositif intelligent. Bill Gates était enthousiaste et pourrait voir une portée plus large. Quelques années plus tard, il annonçait, grâce à une interface standard entre logiciel et matériel, où le matériel était très volumineux, les fabricants de puces peuvent créer des puces spécialisées qui reprennent les fonctions de MSX, qui était à l'origine composé de 20, et travailler lentement sur une seule puce pour que le prix du produit soit suffisamment bas pour qu'il soit intégré à les téléviseurs un jour. Au cours de l'année 1982, à l'été, MSX n'était toujours pas nommé ni défini. C'est à ce stade que Spectra Video, une société américaine fondée en 1981 et dirigée par deux Américains, Alex Weiss et Harry Fox, mais opérant à Hong Kong, entre dans l'histoire. Spectra Video était en train de concevoir un micro-ordinateur domestique à faible coût pour concurrencer Atari, Commodore et Texas Instruments aux États-Unis. Il avait besoin d'une version de base et s'est tourné vers Microsoft qui va lui fournir. Étant basé en Extrême-Orient, il a naturellement choisi de traiter avec Nishi. Un accord a été conclu et Spectra Video a nommé Steve Ting pour assurer la liaison avec Microsoft. Ting travaillait en étroite collaboration avec deux programmeurs ASCII Microsoft connus sous le nom de Rick et Jay. Il les poussait à combiner les meilleurs éléments de l'Extended Color Basic de Microsoft destiné à la maison et du GW Basic 16 bits écrit pour le PC IBM. Le résultat nommé Cornflex deviendra SVI Basic en Spectra Video et pour Microsoft MS Basic 4.5. À l'hiver 82-83, le matériel de Spectra Video a été conçu. Ce n'était pas tout à fait la machine à 100$ que Weiss et Fox espéraient offrir, mais c'était devenu un produit qui pouvait également être présenté aux entreprises. Deux versions ont donc été conçues, un modèle de base et une avec un meilleur clavier et plus de mémoire. Nishi avait vu dans la spécification de base de Spectra Video la base de la plateforme d'ordinateur domestique à laquelle il pensait depuis plus d'un an. Il a commencé à présenter l'idée aux différentes sociétés japonaises d'électronique grand public qui avaient également commencé à contacter Microsoft afin de lui octroyer une licence pour la version du langage de programmation de base pour les micros domestiques qu'elle prévoyait. Parmi eux, Sony, Matsushita, maintenant appelé Panasonic, bien qu'ils aient publié plus tard des ordinateurs MSX sous ces marques, Panasonic et National s'intéressaient particulièrement à la notion de Nishi et acceptaient de travailler en étroite collaboration avec Microsoft pour créer une plateforme commune. Venant des marchés de la télévision et de la chaîne IFI, ces entreprises ont compris l'idée de vendre du matériel sur la base de normes d'enregistrement et pourraient facilement étendre le concept aux ordinateurs. Ils pensaient que la compatibilité, la façon dont n'importe quelle platine cassette pouvait lire une cassette pré-enregistrée, par exemple, générait des ventes à un point tel qu'il y aurait un marché pour le kit de tous les fournisseurs et qu'il n'y aurait pas besoin de tête agressive et désinvolte et de concurrence à la tête pour les ventes de matériel. Cela pourrait marcher moins cher aussi. En 1984, selon Nishi, une fois que MSX sera disponible dans le monde entier, les fabricants seront en mesure de répartir leurs coûts de développement sur un volume de ventes important. Nishi se rappelant sans aucun doute les conversations qu'il avait eues avec les fournisseurs de matériel. Le coût de développement de périphériques pour MSX est faible, car tout produit ajouté fonctionne avec plus de 20 marques. SVI Basic est ensuite devenu MSX Basic, lorsque la stratégie de marque de la nouvelle plateforme a été définie. Cet accord conclu entre Microsoft et Spectra Video rendait cela possible. En effet, la société américano-hongkongaise a rapidement adhéré à la marque et à la plateforme MSX.
La plateforme imaginée par Spectra Video, qui a ensuite été affiné par Nishi et ses partenaires japonais, comprend le populaire processeur Z80A, 8 bits vieillissant, cadencé à moins de 3,6 MHz. Il est associé à une puce d'affichage Texas Instruments 9918 et à un processeur de son de General Instruments, l'AY3-8910, pour un son à 3 octaves et 8 octaves acheminés via le haut-parleur du téléviseur connecté. Alors en fait, c'est 3... C'est pas 3 octaves, c'est 3 pistes, 3 voix et 8 octaves par le haut-parleur du téléviseur connecté. Une puce d'interface de périphérique programmable Intel 8255 gérait les entrées-sorties. Ces trois dernières puces, dans un micro conçu au Royaume-Uni, auraient été combinées en une seule partie personnalisée en silicium appelée ULA, abréviation de Uncommitted Logic Array, fabriquée à moindre coût et grâce à l'intégration nécessitant moins d'espace pour la carte mère pour les puces. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines machines MSX sont devenues tellement plus chères que nombre de leurs rivales britanniques. D'autres ont utilisé la puce dite MSX Engine, une pièce fabriquée par Yamaha qui combinait les capacités de la puce Audio General Instrument, de l'Intel 8255 et d'une autre logique de contrôle de périphérique. Cela a permis de réduire un peu les coûts. Les machines MSX devaient également disposer de 32 kilo-octets de ROM pour le Microsoft Extended Basic, pour le micro-logiciel, et d'au moins 8 kilo-octets de RAM pour les programmes utilisateurs, et de 16 kilo-octets de RAM pour le tampon vidéo. La puce Texas Instruments, donc la 9918, fournirait des graphiques 16 couleurs sur un écran 256 par 192. Bien que chaque octet de 8 pixels puisse prendre en charge 2 couleurs seulement, les valeurs de 16 couleurs ont probablement été stockées sous forme de nombres à 4 bits, 2 par octet. Ainsi, 12 kilo-octets au total pour la carte de pixels et la valeur de couleur. En plus de l'écran haute résolution, MSX Basic de Microsoft prend en charge la version 24 par 24. Alors ça, c'est le mode texte. Les trois dernières lignes sont dédiées aux étiquettes à l'écran, indiquant les affectations de touches de fonction, et les modes 32 par 24 en mode texte uniquement, ainsi qu'un mode basse résolution, un mode graphique en 64 par 48. Cela permettait également jusqu'à 32 sprites programmables. Une interface de cassette viendrait en standard sur les ordinateurs MSX, tout comme un port de manette de jeu de style Atari et un logement de cartouche ROM. La spécification MSX n'a pas déterminé uniquement les éléments internes. Toutes les machines de la marque MSX devaient comporter 4 grandes touches de curseur, que la plupart des micros placés à droite du clavier. Il devait également y avoir 10 touches de fonction, généralement placées au-dessus du clavier. La touche MAJ faisant en sorte que 5 touches physiques fonctionnent comme 10. Certaines touches de fonction devaient être mappées aux commandes MSX Basic, notamment GoTo, List et Run. La plateforme QWERTY elle-même devait incorporer des touches spéciales de modification des graphes et des codes pour les caractères graphiques et autres glyphes. Les touches Clear Screen, Home, Insert et Delete facilitent l'édition des programmes, tandis que Select et Stop peuvent être utilisés dans le code pour améliorer l'interaction de l'utilisateur. La politique japonaise est évidente, écrit Max Phillips dans l'hebdomadaire Personal Computer News après le lancement du 27 juin. MSX a été conçu pour le marché domestique japonais où l'absence de logiciels nuisait à la croissance des ordinateurs personnels. MSX transforme les ordinateurs domestiques en lecteurs de disques, le logiciel devient interchangeable. À plus grande échelle, MSX risque de donner du fil à retordre à tous les grands producteurs britanniques. Les éditeurs de logiciels verront peu d'intérêt dans l'écriture pour les machines non standards avec de petites bases d'utilisateurs. Avec MSX, ils peuvent écrire un programme pour toute une gamme de machines. Cela semble peu probable, CPM offrait beaucoup moins de compatibilité que MSX, mais vous auriez du mal à trouver la machine professionnelle 8 bits la plus vendue que sans celle-ci. Les parieurs préféreraient-ils cela à la panoplie actuelle de micros maison largement incompatibles ? Nigel Sear, alors médecin de Sinclair Research, était sceptique. En 1984, il déclare à Your Computer qu'il pensait que la normalisation de Microsoft était arrivée trop tôt. Mieux, a-t-il dit, dans l'attente, la prochaine génération de machines domestiques basées sur des processeurs 16 ou 32 bits. pensée pressionne ou fanfaron induit par la peur. Pendant ce temps, la machine MSX a commencé à bouger. Microsoft a annoncé qu'une version centrée sur MSX de MS-DOS sera semi-compatible avec le système d'exploitation CPM de Digital Research, qui s'appellera bien entendu MSX-DOS, sera disponible en octobre 1983. Elle a été créée par le rédacteur original de MS-DOS, Tim Patterson, de retour à Seattle. Au même moment, les 6 premières machines de fournisseurs japonais ont été présentées au Japan Data Show. La société américaine Spectra Video avait déjà annoncé ses premières machines MSX, du moins aux États-Unis, et avait lancé au cours de la dernière partie de 1983. Ces deux offres étaient la SVI-318 et la SVI-328. L'ancien micro à 199 dans le... avec un joystick, 32 kg et 16 kg dont, rappelons-le, étaient dédiés au graphisme, dont les, selon les spécifications MSX, et 32 kg de RAM. Le SV328 est venu avec un total de 80 kilo-octets de RAM et 48 kilo-octets de ROM. Il manquait le joystick de la machine la moins chère, mais compte tenu de son prix plus élevé et de l'accent mis sur les utilisateurs plus sérieux, il disposait d'un pavé numérique séparé à côté du clavier.
Comme quoi ça pourrait être une machine de comptable, quoi.
Bah ouais, hein, c'est important. Les deux machines nécessitaient un enregistreur à cassette dédié. Une astuce mise au point par le fournisseur américain Commodore, et Spectra Video offrait une gamme d'accessoires, notamment des modules complémentaires pour lecteur de disquettes et interface d'imprimante Centronix, ainsi que des cartes d'extension RAM. Tout va bien, sauf que les machines de Spectra Video n'étaient pas entièrement compatibles avec la spécification MSX. Après tout, ils avaient été conçus avant que les spécifications MSX ne soient définies. Lorsque la nouvelle a été annoncée au Royaume-Uni, Tony Noble, responsable du distributeur d'ordinateurs de Gamekeeper, la société détaillant l'essentiel des importations de Spectra Video, a déclaré à PCN « Nous avons presque tout renvoyé ». Le distributeur britannique de Spectra Video, basé à Weston-super-Mare, CK Supplies, a déploré le fait qu'ils avaient été mal informés par le fabricant qui aurait proclamé à la compatibilité totale avec MSX dans toutes ses publicités jusque-là. Spectra Video elle-même a déclaré que ces machines étaient conformes à la spécification MSX telle que définie à l'origine et que ce n'était pas la faute des entreprises que la norme ait changé après la mise en production de ces machines. CK a promis un adaptateur de 30€ pour corriger l'incompatibilité de l'emplacement de la ROM. Spectra Video lui-même finira par lancer une machine MSX entièrement compatible, la 728, à l'automne 1984. En janvier de la même année, toutes les machines étaient en vente au Japon, mais peu d'entre elles étaient déjà apparues ici. Elles ont été dévoilées aux principaux détaillants britanniques lors d'un événement spécial organisé début février en marge du salon britannique Toy and Hobby Fair. Il devenait de plus en plus évident que la plupart des machines, sinon toutes, ne seraient pas largement disponibles d'ici 6 ou 7 mois. En effet, pour aider à garder la tribune dans l'esprit du public, les nouveaux Sony, Toshiba, Yamaha et autres ont été à nouveau exposés, cette fois à la presse en mai. Bien sûr, alors que les prix des machines étaient initialement prévus à moins de 200€, les fabricants de MSX disaient simplement maintenant que les prix seraient concurrentiels. Les partisans britanniques du standard, réunis sous la direction de Toshiba sous le groupe de travail MSX, revendiquaient désormais tous les principaux éditeurs de logiciels britanniques, parmi lesquels Psion, Quicksilver, Virgin, Melbourne House, Thorn EMI, Silversoft et Husson, travaillaient sur des jeux pour la plateforme. Bugbyte, Kuma, Alligata, Ocean et Ultimate envisageaient également de s'y lancer. Certains initiés, cependant, ont affirmé que les développeurs de logiciels avaient été amenés à développer des jeux MSX par les fans de la plateforme au sein de grandes chaînes de détaillants britanniques. Il n'est donc pas étonnant que les fabricants de matériel informatique commencent à se demander s'ils doivent également participer. Il y avait déjà eu une ou deux rumeurs selon lesquelles le micro-fabricant gallois Dragon Data envisageait de lancer une machine MSX. Sa société mère, GEC, était l'une des 7 sociétés européennes connues pour parler à Microsoft de l'octroi de licence MSX. Notre point de vue à l'heure actuelle est que MSX est ce que nous allons faire, a déclaré le directeur du marketing de Dragon, Kevin Stephens, à Popular Computing Weekly. Si c'est le cas, nous ferons presque certainement également des logiciels pour MSX. En quelques semaines, cependant, GEC avait appelé les récepteurs pour gérer la vente ou la fermeture de Dragon Data. J'ai aussi indiqué qu'elle envisageait toujours de rechercher une licence MSX, mais que cela ne donnerait rien. En octobre, GEC a déclaré qu'une machine MSX n'était plus sur ses cartes et que la société envisageait de s'impliquer ou non dans le marché des ordinateurs personnels. La suite des aventures de MSX la semaine prochaine.
Et oui, parce que l'aventure est longue.
Oh là là, il écrit beaucoup de textes, Maître Bell.
C'est fascinant, mais nous allons... Merci beaucoup, Maître Bell, pour cette première partie. En rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et tout de suite, passons à l'agenda.
Et Zalagenda, qu'est-ce qu'on a Zalagenda?
Alors, réunion d'information sur les monnaies du libre à Romans.
Sur les monnaies libres, oui.
Sur les monnaies libres, oui. Pas du libre. Une réunion d'information sur les monnaies libres aura lieu à Romans avec présentation de la TRMR.
TRM, la théorie relative de la monnaie.
Et la GEAN.
La JUNE, ça la se dit JUNE. Ouais,
d'accord.
C'est un G Macron avec un...
D'accord, donc ce sera le mardi 9 avril 2019 à 18h30 à la maison de quartier des Ors, 26 rue Magnard à Romans.
Et même chose, mais à Valence ce coup-ci, c'est le jeudi 11 avril à 19h à la Forge Collective 8 rue Baudin à Valence.
Alors, nous passons à l'astrologique. Alors, nous frottons la boule de cristal. Que dit-elle? Que dit-elle? Attention. Rolliste, t'as vu un elfe? Non, comme on dirait Kodakoff, c'est de la merde comme format.
6 admin. Avant, je tirais les cartes perforées. Après, j'étais magnétique sur les bandes. Ici, je suis devenu plus dur, disque dur.
Libriste, si on oublie de mettre Debian Seed à jour, ça fait du vinaigre de Seed.
Technophile, j'ai oublié de verrouiller mon téléphone avant de le mettre dans ma poche. Il envoie des messages tout seul, il envoie des... Ah oui, c'est la chanson. En plus, c'est moi qui l'ai écrite, celle-là. Il envoie des messages tout seul.
Il envoie des messages tout seul. Hacker, je suis ton ami. Je marche dans tes souliers. Son ordi est le mien.
Codeur, dans la Rome antique, on n'avait pas beaucoup d'adresses.
Ah, slash
Romaine. La Rome antique, ouais.
Eh bien, merci Mimimène pour cette fin de mission. Roudoudou vous fait des bisous parce qu'il est presque là.
Il est juste à côté, mais il n'a pas osé rentrer. Pour
le... Voilà, et on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode sur MSX. À très bientôt, Roudoudou va nous dire au revoir.
Ah ben si, quand même.
Au revoir. À bientôt, au revoir.
Au revoir.